France Musique. Le gospel ou le chant de l'espoir. Durant près de trois siècles, le commerce triangulaire ou la traite négrière ravage le continent africain. Il implique l'Europe, l'Afrique et le continent américain. 10 à 15 millions d'Africains sont capturés durant cette période pour des raisons économiques. Près de 5 millions d'entre eux sont morts à la suite de cette capture, le plus souvent lors de leur transport vers le continent américain. Le voyage, long de plusieurs mois, s'effectue dans des conditions abominables, inhumaines. Également appelé traite atlantique, le commerce triangulaire marque le début de la colonisation. Avant de monter sur le bateau, on leur donne un nom chrétien, on les enregistre et on les déshabille. Pour la traversée, on les enchaîne. Un jour de mai 1748, en traversant l'Atlantique, le bateau négrier d'un jeune capitaine britannique est pris dans une violente tempête. La situation est désespérée. Alors, les esclaves se mettent doucement à chanter. Le négrier, John Newton, s'agenouille, commence à prier et à chanter avec eux, suivi par tout l'équipage. Le bateau est sauvé. Frappé par cet événement, Newton renonce à son sinistre métier et se fait prêtre. Jusqu'à sa mort, il milite pour l'abolition de l'esclavage. En 1760, Newton compose un texte sur une musique. Celle sans doute chantée par les esclaves africains lors de cette tempête. La chanson Amazing Grace est depuis l'hymne des abolitionnistes britanniques luttant contre l'esclavage. Une fois arrivés en Amérique, les esclaves sont vendus. Les régisseurs ou commandeurs d'origine africaine présentent leur lot aux colons. En retour, ils sont payés en espèces ou en nature. Une longue période d'esclavagisme commence alors pour ces hommes et femmes au service de propriétaires d'exploitation, de coton, de canne à sucre ou de café. Les conditions de travail sont très dures dans les champs et les esclaves ont interdiction de parler. Alors ils chantent. Ils chantent des work songs, les chants du travail. Ils chantent pour se parler, ils chantent pour partager leurs souffrances, leur tristesse, leurs souvenirs, mais aussi l'amour et l'espoir, sous le ciel, dans les champs. Leur voix s'élève de toute leur force. Ils n'ont pas oublié leur rite, ils n'ont pas oublié leur danse. Certains missionnaires, portés par leur humanisme et leur christianisme, tentent de soutenir les esclaves. Ils leur enseignent alors quelques rudiments de la chrétienté. Sans renier leur culture, l'adoption de la religion des maîtres suit celle de la langue. Ils découvrent alors la religion chrétienne. Ils comparent leur sort à celui des Hébreux captifs en Égypte de l'Ancien Testament. La libération du peuple d'Israël est vécue de manière concrète. La terre promise est pour les Noirs opprimés, le Canada, où l'esclavage n'est pas autorisé. Il fréquente alors les églises blanches qui deviennent un lieu d'expression libre où tout se retrouve. Now when Israel was in Egypt land, let my people go. À partir de 1750, un fort mouvement religieux apparaît dans les colonies d'Amérique. On l'appelle le Grand Réveil. Pasteur et médecin anglais, Isaac Watts diffuse alors un recueil d'hymnes et de spiritual songs. Dans les communautés noires, il se mêle aux work songs et donne alors naissance aux Negro spirituals. la liturgie se plie peu à peu aux habitudes et à la sensibilité de ces esclaves venus d'Afrique. Par des prêches exaltées, des claquements de doigts ou le taper des pieds, les réponses improvisées et les hymnes collectifs, ils transforment les cantiques protestants anglo-saxons en spirituals. Mais la douleur est toujours là. Le Negro Spiritual est un chant austère où seules les voix des esclaves prient dans l'ultime quête d'espérance, de lumière. La Jérusalem céleste et radieuse de l'Apocalypse, autre source biblique du Negro Spiritual, leur offre l'espoir d'un règne de justice. Durant les heures sombres de la nuit, quand les esclavagés ne sont plus surveillés, certains se retrouvent dans des cachettes, sur la plantation ou dans les marécages. Ces cultes secrets ou ce rassemblement portent en eux le germe de révolte, de l'indépendance et de l'insoumission. Ces moments invisibles sont pour eux l'occasion de se détourner du labeur sans fin, pénible et ingrat de l'exploitation. Ils leur permettent de créer du lien avec d'autres compagnons de souffrance, de ressentir le peu de joie que génère la vie sur la plantation. Ils s'unissent pour mieux résister, pour se protéger de la violence quotidienne et pour tenter de préserver, un tant soit peu, l'estime de soi. Ils complotent aussi des incendies criminels ou des sabotages, organisent des mutineries, feignent la maladie. Mais les réponses sont violentes. Emprisonnement, mise au fer, fouet. Nat Turner, un esclave du comté de Southampton en Virginie, participe à la montée de l'abolitionnisme. En 1831, il organise une révolte. Esclave lettré en qui ses maîtres placent une grande confiance, Turner est un fanatique religieux. Il enrôle quelques dizaines de fidèles et déclenche son insurrection le 21 août en tuant sans distinction hommes, femmes et enfants, tous blancs. La révolte est écrasée, Turner et les rebelles pendus. Le sud-est des États-Unis est traumatisé. La marche vers la fin de l'esclavagisme est amorcée. Il faut encore attendre plusieurs décennies. La formation du Parti de la Liberté en 1840 fait de l'esclavage un thème significatif de la politique nationale états-unienne. Un livre en particulier va exercer un impact considérable sur la perception de l'esclavage par l'opinion publique nordiste.
Comment vous appelez-vous ?
Mon nom est Tom. Mais les petits-enfants m'appelaient tous Oncle Tom là-bas dans le Kentucky.
Oncle Tom ?
Oui.
Et où allez-vous comme ça, Oncle Tom ?
Je sais pas, mademoiselle Eva.
Vous ne savez pas ?
Non, mademoiselle, je vais être vendue à quelqu'un, je sais pas à qui.
Vous allez être vendue ?
Il s'agit de la case de l'Oncle Tom, éditée en 1852. Il emporte aussitôt un succès phénoménal et se vend à 300 000 exemplaires. La case de l'Oncle Tom, ou le témoignage bouleversant de la condition servile, entraîne une opposition croissante à l'esclavage. Bientôt, des filières d'évasion appelées chemins de fer clandestins permettent aux esclaves en fuite de se réfugier dans le Nord. L'abolition progressive de l'esclavage dans les États du Nord offre aux esclaves du Sud un nouveau refuge. C'est la fin de la guerre de sécession entre les États du Nord et du Sud qui met un terme à l'esclavage après 4 années de combat. Le 18 décembre 1865, le président Lincoln, par le 13e amendement de la Constitution, abolit définitivement l'esclavage sur le territoire américain. Plus que tout, le soutien, l'amitié et l'appel à la fraternité soudent la communauté de ces esclaves libérés. Car l'espoir d'abolition s'est vite assombri. La ségrégation raciale dure jusqu'en 1965. L'injustice, elle, n'a jamais été abolie. Par leur foi, leur force, leur enthousiasme, ils chantent plus que jamais leurs gospel songs. Chanter pour la liberté, l'égalité, la justice. When Jesus walked, when Jesus walked, oh, when he walked, when Jesus walked, when Jesus walked, changed the way, oh, happy day, oh, it's a happy day.
Lord.
Oh, happy day.
Mm, good God.
Oh, happy day.
Oh, yeah.
Oh, happy day.
Mm, Lord.
À réécouter sur francemusique.fr.